RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Alors on dit quoi sur RFI. L'arbre à palabres de la jeunesse africaine s'interroge aujourd'hui sur le rapport qu'entretient la jeunesse avec la politique. À l'heure où beaucoup de jeunes boudent les urnes, certains n'hésitent pas à s'investir dans les partis politiques en France comme en Afrique. Alors pourquoi et pour qui ? Eh bien nous verrons cela dans cette émission. Les jeunes et la politique, c'est dans quelques instants. Et sachez aussi que nous irons à la rencontre d'Alexandre Guberlette, qui est journaliste, cyberactiviste et membre fondateur de Sénégal Vote, une plateforme d'information citoyenne sur les élections au Sénégal. Voilà, voilà, je vous propose d'y aller de suite. À Tianudem, c'est parti.
Alors, on dit quoi ? Avec Diaran Diaye.
Bien souvent, la seule participation à la vie politique se limite au vote pour un parti dont on se sent plus ou moins proche. Mais certains choisissent d'aller plus loin en décidant d'adhérer à un parti politique et donc de rejoindre des milliers de personnes qui ont déjà fait le choix de s'engager. On en parle avec nos invités du jour. Bonjour à Mahamadou Samake. Il est le secrétaire général adjoint de l'URD en France, un parti politique malien d'opposition. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour également à Stéphane Tiki qui lui est secrétaire national des Républicains, un parti politique français. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Et enfin, bonjour à vous, Omar Ba, vous êtes analyste politique.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Alors que les jeunes représentent la majorité de la population sur le continent, ils restent sous-représentés en politique. Une situation que certains espèrent faire évoluer au sein de la jeunesse africaine. Hommes et femmes espèrent pourtant amener par eux-mêmes le changement. Illustration en Côte d'Ivoire dans ce reportage de notre correspondant Yannick.
La Côte d'Ivoire vibre déjà au rythme des prochaines élections présidentielles d'octobre 2020. Plusieurs jeunes veulent faire valoir leur choix et faire entendre leur voix. Très engagée en politique, nous avons rencontré Isabelle Vauvor, membre du bureau politique du RHDP, parti au pouvoir, et Arnaud Goï, chargé de la formation et des activités de leader, parti de l'opposition. Pourquoi, en tant que jeunes, sont-ils embarqués en politique ? Voici leur réponse.
Tout simplement par principe, parce que je suis quelqu'un d'engagé, d'engagé pour la cause des autres, pour le bien-être de mon pays et de ma communauté. Vous savez, aujourd'hui, toutes les grandes décisions sont prises au niveau politique. Il était donc important pour moi de m'y engager tout simplement.
Mon engagement politique touche ses racines dans la crise post-électorale qu'a connue notre pays, parce que l'image que l'on a aujourd'hui de la politique, c'est les mensonges, des crises, des tromperies, ces pays, la guerre, etc. Alors qu'on peut faire tellement de bonnes choses avec la politique. Donc je me suis dit au lendemain de la crise qu'il fallait que je m'engage pour mon pays, pour le lendemain de ma patrie.
On le comprend bien, en Côte d'Ivoire, la politique ce n'est plus l'apanage des quinquagénaires ou des octogénaires.
Les personnes de moins de 35 ans représentent près de plus de 3 quarts de la population de Côte d'Ivoire. Autrement dit, la population ivoirienne est majoritairement enfant ou jeune. Et c'est donc une question démocratique, mais aussi démographique, que les jeunes soient impliqués dans la gestion de notre pays. Au-delà, personne ne changera la Côte d'Ivoire à notre place.
Il est important pour nous jeunes de s'engager très tôt, de sorte à pouvoir se frotter aux plus aguerris et pouvoir forger nos armes en politique et être des leaders demain, des leaders en politique demain. Il est important pour nous jeunes de faire entendre notre voix et cela passe forcément par notre engagement en politique.
Même son de cloche au sein de la société civile ivoirienne qui régorge de jeunes leaders attentifs à l'actualité politique de leur pays. Israël Guébo est journaliste et président de Génération Innovante, une association qui prône la citoyenneté. Pour lui, politique et jeunesse ne sont pas incompatibles. Bien au contraire.
C'est sur nous que les décisions des hommes politiques, on va dire, sont appliquées. Et c'est nous, les jeunes, qui choisissons celui qui va gouverner le pays ou les maires ou les députés. Donc, nous sommes de facto impliqués dans la politique du pays. Par contre, c'est vrai que mener l'activité politique n'est pas incompatible avec la jeunesse. Au contraire, être jeune, c'est synonyme de vigueur. C'est synonyme de, on a encore beaucoup d'énergie pour sillonner, pour mener des actions, pour parler aux gens. Et on a beaucoup de rêves. Et on a une présomption de longévité parce qu'on est jeune.
Les prochaines élections présidentielles de la Côte d'Ivoire ne font pas réagir que les jeunes Ivoiriens. Depuis l'étranger, de nombreux observateurs jeunes y accordent un intérêt particulier. Depuis le Gabon, Charlie Tchatch, web influenceur, fondateur du mouvement de la jeunesse africaine virtuelle, donne son avis sur l'attitude que devra avoir la jeunesse ivoirienne lors de ses prochaines élections.
L'élection en Côte d'Ivoire ne doit pas être le choix d'un candidat à cause de son appartenance politique, sociale, religieuse. Non, il faudrait que les jeunes apprennent à choisir non pas le candidat, mais le projet de société qui leur est présenté. Et donc nous, ce que nous voulons, c'est que chaque jeune choisisse le projet de société en rapport avec les aspirations qui sont les leurs. Il faut évidemment que chacun se sente impliqué, se dise « je choisis ». Un projet de société dans lequel j'aurai de l'emploi, dans lequel j'aurai beaucoup plus d'opportunités à m'épanouir en tant que jeune, mais également à permettre à d'autres jeunes de pouvoir s'épanouir.
La Côte d'Ivoire tient une belle occasion pour montrer sa maturité politique à la face du monde. Elle peut compter sur une jeunesse consciente, lasse d'être la victime des crises politiques à répétition et qui désire donner un sens plus noble au jeu politique trop longtemps piétiné.
Un jeu politique piétiné, une jeunesse consciente qui n'a pas froid aux yeux. C'est aussi votre constat, Omar ?
Oui, je note que des jeunes aussi engagés, finalement, on a l'impression qu'on n'en a pas souvent parce que la politique et la jeunesse ne semblent pas souvent dans l'inconscient collectif faire bon ménage, parce que la politique, c'est quelque chose de très difficile. Ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de temps et surtout, ça demande beaucoup d'expérience, parce que ceux qui, entre guillemets, réussissent en politique sont finalement ceux qui ont reçu souvent des coups, qui ont pu en donner et qui, dans le sérail, se sont forgés une carapace. Mais jeunesse et politique, il me semble que, comme l'a dit l'un des auditeurs, on ne peut pas ne pas s'engager quand on est issu d'un pays dont on est certain que les problèmes majeurs sont dus à des problèmes de gouvernance et de vision politique, de mise en œuvre des politiques publiques. Et donc c'est tout le sens, me semble-t-il, de tout un ensemble de jeunes qui aujourd'hui se lancent en politique, en dépit du fait qu'il y a une défiance énorme vis-à-vis des hommes politiques, non pas simplement en Afrique, parce que sans doute Monsieur Tiki nous dira qu'en France aussi, la défiance est énorme. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, un sondage paru révèle que 65% des Français estiment que les hommes politiques pensent d'abord à leurs intérêts.
Ouais, oui, je vais être encore plus précise. En France, Stéphane, alors juste avant de revenir sur les chiffres, peut-être Omar, je vais demander à Stéphane. Omar qui vient de dire que la politique, c'est difficile. Est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Déjà, je vous dirais que chaque chose dans la vie est difficile. Peu importe la voie que l'on choisit, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit dans le sport, que l'on soit docteur, pharmacien, et évidemment, si on veut embrasser une carrière politique, c'est quelque chose de difficile. Je pense d'ailleurs que dans la vie, rien n'est facile, donc c'est un engagement. Moi, je pense qu'il faut redonner de la valeur à ce mot d'engagement. Et une auditrice se disait d'ailleurs tout à l'heure si bien, et je partageais totalement son avis, elle disait qu'elle s'engageait parce que déjà, elle aime les gens. Moi, c'est mon cas, et parce que c'est un engagement au service des autres. Et c'est vrai que malheureusement, comme disait tout à l'heure Omar, beaucoup transforment cet engagement-là au service des autres, à leur service, mais c'est aussi à nous, génération, de montrer qu'on est au service des autres et qu'on veut essayer de changer les choses. Après, je sais que beaucoup me diront « oui, c'est pas facile de changer les choses ». Et moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont jamais contents après les résultats aux élections, et je leur dis souvent « est-ce que tu as voté ?» Parce que tu as la possibilité, pendant le vote, de pouvoir choisir un tel ou un tel, ou de pouvoir exclure un tel ou un tel. Évidemment, si tu ne prends pas ce choix-là, tu laisses la possibilité à d'autres de faire le choix à ta place. Et moi, je dis toujours aux gens, il faut s'engager. Et au-delà de la politique, moi, je pense juste à un mot aussi, qui est le mot citoyen. Pourquoi je parle d'engagement citoyen ? Parce que, pour moi, tout est dans la vie, si vous me permettez le mot, de la cité. Parce qu'aujourd'hui, si vous parlez d'éducation, c'est la cité. Vous parlez de place en crèche, c'est la cité. Vous parlez de sport, c'est la cité. Vous parlez de place de parking, c'est la cité. Plus de caméras dans la ville. Et d'ailleurs, les élections dans lesquelles les gens votent le plus, c'est d'abord l'élection municipale, parce que le maire est à portée d'engueulade, et on peut le voir souvent par rapport à son bilan. Et ensuite, c'est l'élection présidentielle. Et pour finir ma phrase, je vous dirais que, pour aller dans le sens de ce que disait Omar, moi j'étais président des jeunes dans un parti où il y avait 25 000 jeunes, en 2014. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui s'engagent en politique, parce que on peut s'engager différemment. Parce qu'on peut s'engager déjà dans des think tanks, aujourd'hui, qui sont des clubs de réflexion dans lesquels on peut avoir des idées. Et aussi parce que j'ai l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, j'allais pas utiliser le mot nouveau monde, mais plutôt dans le monde d'aujourd'hui, les gens s'engagent pour des causes. Moi, j'ai rencontré énormément de jeunes qui ont voté aux élections européennes là récemment et qui étaient manifestés samedi pour le climat. Parce que c'est une cause qui touche les gens. Et si, je reprends un exemple, mais si on avait fait cette émission il y a 10 ans et qu'on avait dit, est-ce que vous imaginez un jour quelqu'un qui aurait fait une marche sur le climat? Jamais on aurait eu quelqu'un. Tout le monde aurait dit, mais attendez, le climat, ça intéresse personne. Ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir d'achat, c'est un emploi, c'est le logement. Et ben aujourd'hui, ça fait partie des choses, voilà. Mais c'est pour aussi dire que je pense que la vie politique d'aujourd'hui doit s'adapter aussi au monde d'aujourd'hui avec les gens qui ont changé.
Elle s'adapte, mais les jeunes ne s'y accrochent pas forcément. On a, par exemple, un rapport qui a été publié par Sciences Po récemment, 2009-2019, la crise de la confiance politique. On a la méfiance et le dégoût qui l'emportent largement sur le sentiment positif vis-à-vis des politiques. Donc ça veut dire que, en tout cas pour le cas de la France, il y a la méfiance et le dégoût qui priment. Et puis on a plus de 70% des 18-34 ans, c'est quand même notre cible, qui ne se sont pas rendus au second tour des élections législatives dont on parlait. Alors, ces chiffres, comment vous les expliquez-vous?
Oui, il y a des défiances. Je vous dirais simplement la vérité. Il y a des défiances parce que beaucoup d'hommes politiques ont promis des choses et ne les ont pas fait. Ça rejoint d'ailleurs des hommes politiques de ma famille politique, pour être tout à fait sincère et transparent. Et je pense aussi que il y a un climat de défiance à cause des affaires aussi, où il y a quand même, les gens se disent, oui, mais attends, si lui, il est mouillé dans telle ou telle affaire, est-ce que il n'a pas joué un rôle, même si moi je défends encore une fois la présomption d'innocence, mais c'est vrai que comme on est un peu dans le monde du buzz, maintenant on a une affaire, ça fait un buzz, et les gens, voilà, je pense au dernier buzz qu'on peut parler, c'est le président d'Assemblée nationale, dont les gens disent, mais attendez, il est resté président d'Assemblée nationale alors même qu'il
pourquoi
est mis en examen.
Pourquoi il ne part pas?
En tout cas, moi, je me rappelle que lorsque notre candidat, en tout cas ma famille politique, François Fillon, a été mis en examen, il faisait partie des premiers qui lui disaient qu'il fallait s'arrêter. Donc, j'aurais pensé qu'il aurait appliqué son propre exemple à lui-même. Mais voilà. Mais je pense aussi que c'est ce double langage dans la vie politique et j'en aime pas. Et si je peux vous contredire juste une petite seconde, je vous dirais que, si vous regardez, et je pars sur le contrôle de mon ami Omar, mais si vous regardez sur l'élection municipale, les gens, ils aiment leur maire. C'est là où ils vont voter.
Oui, mais moi, je parlais particulièrement des élections législatives où, finalement, 70%, plus de 70% quand même de l'électorat des jeunes ne s'est pas rendu aux urnes. Donc, ça ne plaît pas.
Oui, mais parce que les gens ne savent pas quel est le rôle du député aujourd'hui. Et comme, en fait, un nouveau mouvement comme En Marche est arrivé, ils ont mis beaucoup... Je pense que quand, à l'époque, on avait des députés comme, je sais pas, moi, je vous dirais Charles Pasquale, Laurent Fabius, c'était des personnalités marquantes de la vie politique française. Et les gens disaient, avec quelqu'un comme ça, j'ai envie de m'engager. Et
donc, il manque des figures politiques, selon vous.
Avec un nouveau mouvement En Marche, qui a pris des députés, pardon du mot, un peu godillot, il faut pas s'étonner non plus que les gens... En fait, les gens, vous savez, juste pour terminer, avant de laisser la parole, les gens, ils râlent tout le temps. Quand il y a des anciens des politiques qui sont là et qui sont des personnes charismatiques, on dit « Ah ben vous voyez, on les voit tout le temps, ils sont tout le temps là ». Et quand on met des nouveaux, ils disent « Ah ben vous voyez, on les connaît pas assez, donc on n'a pas envie de s'investir ». Donc c'est un arbitrage entre les deux.
Beaucoup d'indécis, mais finalement, Mahamadou, est-ce que les jeunes ne se sentent pas écoutés et représentés en politique parce qu'ils ne s'engagent que très peu, de façon directe? On en parlait par exemple avec le vote, ou en adhérant tout simplement à des partis politiques, parce qu'il y a plein de jeunes qui ne sont pas adhérents à des partis politiques, ou bien est-ce que les jeunes ne s'engagent que très peu parce qu'ils ne se sentent pas écoutés ou représentés?
Moi, personnellement, je pense que la jeunesse ne participe pas très peu. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs façons de s'engager dans la politique. On peut décider d'aller au cœur du réacteur, c'est-à-dire dans les partis politiques, participer de façon active à la prise des décisions étant à l'intérieur des partis politiques. Tout comme on peut décider justement d'aller avec la société civile, avec des associations de jeunes, et c'est ce qu'on voit très souvent ces derniers temps en Afrique. On a vu le mouvement Yanamar,
le balai
citoyen au Burkina Faso.
Filimbi,
ça aussi, c'est une façon de faire la politique. Mm-hmm. Mais effectivement, il est très difficile également de parler de... il a dit Omar, c'est de parler de la politique, l'engagement des jeunes en politique, sans véritablement mettre cet accent sur la question de la défiance. Je pense que la question, les raisons sont connues, hein. Les jeunes se méfient de plus en plus des hommes politiques, pour la simple raison que les questions jeunes n'ont pas été tout le temps réglées de façon avec beaucoup de sérieux par les leaders politiques qui se sont succédés à la tête de nos États. La question, par exemple, de l'emploi jeune, c'est toujours d'actualité 50 ans après. Je pense que le taux de chômage est le plus élevé dans notre continent. Et également, il y a la question des affaires. À chaque fois qu'il y a des affaires, les gens se disent finalement ils sont tous pareils. Donc les raisons sont là, elles sont connues. Et oui, je pense qu'il y a une participation variée des jeunes dans la politique.
On parlait à l'instant justement de s'engager autrement. Stéphane a parlé des think tanks par exemple. Mahamadou vient de parler de ces nouveaux mouvements politiques qui émergent comme les Ballets Citoyens et Filimbi ou Y'en a marre. Omar, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi ces mouvements apportent un nouveau souffle, peut-être un nouvel engouement. Ils ont des codes différents, ils ont des postures différentes, ils s'expriment de façon différente avec un message peut-être plus clair, plus fort. Comment expliquer cela ?
Alors, ces mouvements, en fait, le terreau de ces mouvements, c'est des échecs successifs de la plupart des politiques qui ont été mises en œuvre. Je parle de l'Afrique en l'occurrence, et pas simplement en Afrique. C'est que tout à l'heure, Stéphane, dans son propos, a dit un mot qui me semble être finalement l'un des objets les plus significatifs de la différence. L'une des causes, c'est la notion de carrière, parce qu'il a parlé, quand vous lui avez posé la question de savoir si la politique était difficile, il vous a dit oui, c'est difficile, comme quand on est entrepreneur, comme quand on est, et il a utilisé la notion de carrière. À mon sens, c'est cette notion là qui aujourd'hui fait que pas mal de gens se méfient de la politique.
Parce que la politique n'est pas un métier.
Mais ce n'est pas un métier. Fondamentalement, il vous le dira, peut-être que le terme lui a échappé, mais je pense que c'est un sacerdoce, c'est un engagement. C'est qu'à un moment donné, on sent qu'on est capable d'apporter à son pays un certain nombre de compétences, une vision, une façon de faire, une façon de mener les politiques publiques, et on s'engage. Et ça a une durée. Moi, j'estime que la chance, ou en tout cas la force des mouvements dont vous parlez, c'est qu'ils ne s'inscrivent pas dans une carrière politique. Ils ont, à un moment donné, constaté qu'il fallait s'engager sur des causes, comme il l'a rappelé, et que ces causes-là concourent à la construction nationale, à la mise en œuvre de politiques publiques qui font le bien de tous. Donc, c'est justement à ce niveau-là que je note une rupture entre la manière classique de faire de la politique et les nouvelles façons de s'engager.
Omar, vous n'êtes pas engagé dans un parti politique, mais vous estimez être engagé politiquement ?
Effectivement.
Alors, de quelle
ça
manière ?
Ça peut paraître curieux, parce que quand je dis que je ne suis pas engagé dans un parti, les gens me regardent avec les rosiers et me disent, mais donc vous faites partie de la société civile. Mais,
et vous dites non là aussi ?
Non, parce que un parti politique, c'est une association de droit privé. On est d'accord. C'est-à-dire que c'est une association, aussi longtemps que cette association n'a pas accédé au pouvoir et n'exerce pas le pouvoir, c'est une association privée. Donc, est-ce que cette association fait partie de la société civile ? On dit que non, parce qu'ils sont sur le terrain politique. Et moi, je pense que là, les frontières entre la société civile et le monde politique sont particulièrement poreuses. Parce que les influences que la société civile peut avoir sur les décisions politiques, sur les politiques publiques, peuvent être significatives. Alors que quand on est dans un parti, ça a beaucoup d'avantages. Mais l'inconvénient, c'est qu'on s'enferme. On est tenu par une discipline de parti qui ne nous permet pas de nous exprimer, en tout cas, d'exprimer tout notre potentiel. Et on va me dire le contraire, mais je pense que...
Certainement, Stéphane, lui, dans un parti politique, c'est absurde de dire cela.
Oui, je suis pas sûr, je pense pas avoir utilisé le mot carrière. Je pense qu'il y a eu une entente, mais moi, je parlais pas de carrière, je parlais d'engagement. Pour dire que c'est un engagement au service des autres, un engagement surtout parce qu'on essaie de défendre des valeurs comme la liberté, le travail, la méritocratie ou la liberté de créer, d'entreprendre, et d'autres encore. Et pour moi, en fait, l'un et l'autre sont liés. Parce que, en fait, d'ailleurs, je veux pas opposer...
Mais vous ne vous sentez pas cloisonné, comme le dit Omar, dans un parti politique ?
Je veux pas opposer société civile et parti politique pour la simple bonne raison que moi, je fais partie de la société civile et je suis engagé dans un parti politique. Je suis partie de la société civile parce que je ne vis pas de la politique, je suis entrepreneur. Et en même temps, je suis engagé dans un parti politique parce que je veux défendre
des
valeurs.
Mais ce parti politique a une vision, a des lignes que vous suivez et
On adhère à un parti politique parce qu'on considère que les valeurs qui sont défendues par ce parti politique sont des valeurs qui nous correspondent. Mais moi, je vous dis clairement quelque chose. Dans mon parti politique, je défends mes valeurs et mes idées. Et je vais même aller plus loin pour être un peu polémique. Si un jour, je le dis, mon parti politique voulait faire une alliance avec le Front National, je quitterai le parti. Parce que je suis adhéré dans ce parti-là, parce que c'était mes valeurs. Mais je suis pas tenu parce que le parti a dit, bon ben les gars, on va tous fusionner avec le Front National, et je dirais pas, bon ben comme le parti a dit, bon ben je suis. Non, moi j'ai ma liberté de parole, et il peut arriver que dans un parti... Moi je considère que le parti politique comme une famille politique. C'est-à-dire que d'ailleurs...
Au sein même de votre famille politique, il y a des courants.
Oui,
et vous savez quoi,
je vous dirais même quelque chose de plus simple. J'imagine que quand vous vous déjeunez en famille le dimanche, avec votre papa, votre maman, votre soeur et votre frère, vous avez des idées différentes sur tel ou tel point. Et ben, la famille politique, c'est pareil. L'important, c'est que ce qui nous rassemble, c'est pas ce qui nous divise, donc c'est les valeurs. Mais après, sur différents points, il y a des points dans ma famille politique que ma famille politique a pu défendre, sur lesquels j'ai pas été d'accord, et ou d'autres où j'étais d'accord et j'ai défendu. Mais pour moi, mon engagement tient de deux choses, et c'est en ça que je veux dire ça, c'est les valeurs, d'abord les valeurs, et la liberté. Si moi je suis dans quelque chose où mes valeurs ne correspondent pas et j'ai pas ma liberté, dans ce cas-là, je trouve qu'on n'a pas d'intérêt.
Alors on dit quoi ? Jaranjai.
Vous écoutez Alors on dit quoi ? Aujourd'hui, les jeunes et la politique, c'est notre thématique. Faut-il s'engager, oui ou non ? Eh bien, on en parle avec nos invités. Mahamadou Samake, secrétaire général adjoint de l'URD en France. C'est un parti politique malien d'opposition. Stéphane Tiki, secrétaire national des Les Républicains, un parti politique français. Et Omar Ba, qui lui est analyste politique. Et on fait à présent place à nos auditeurs, et particulièrement Silver Hello. Il est âgé de 22 ans, il nous appelle de Lomé au Togo. Selon vous, la politique est en danger. Silver, expliquez-nous pourquoi.
D'abord, bonjour Diarra et bonjour à tous vos invités.
Bonjour Silver.
Oui, et donc pour moi, la politique, c'est vraiment un danger, surtout au Togo et peut-être en Afrique. Au Togo, où j'habite, politique rime souvent avec prison. Donc, les jeunes ont bien envie de s'intéresser à la politique, d'adhérer à un parti politique. Mais le truc, c'est que une fois que vous n'êtes pas d'un parti et du parti au pouvoir et que vous êtes dans l'opposition, vous considérez tout de suite comme étant en danger. Je donnais l'exemple de Police Tativi, qui en fait n'a fait que créer un mouvement citoyen. Et ce qui me touche un peu et qui m'écœure chez lui, c'est qu'actuellement il est en prison, Diarra. Donc déjà, quand vous entendez ça, Vous avez peur de s'engager dans la politique. Moi, j'ai souvent l'occasion de discuter avec des amis, que ce soit à l'université ou que ce soit dans la rue, et qui me disent souvent qu'ils ont l'amour de la politique.
Mais vous, Silver, quelle alternative vous prenez justement pour faire entendre la voix des jeunes, votre voix en politique, sachant que pour vous, c'est un réel danger? Vous estimez que c'est un réel danger?
Oui, c'est un réel danger, mais je crois qu'il faudrait qu'un effort soit fait au niveau du gouvernement, parce qu'il faut essayer de détendre un peu la situation. Il faut amener les jeunes, il faudrait sensibiliser les jeunes à la politique et leur faire comprendre que justement, la politique ne devrait pas rimer avec prison ou avec danger, en fait. Donc, vous voyez que Diarra, le jeune a bien envie de revendiquer, le jeune a bien envie de s'intéresser à la politique. Mais les réalités sur le terrain, l'opinion générale fait que ça décourage souvent et ça fait peur.
Alors justement, Silver, on a en plateau Mahamadou qui, lui, est un militant politique au Mali. Donc il représente un parti politique ici en France, ce parti politique en France. Mais j'aimerais que vous réagissiez au témoignage de Silver qui nous dit que la politique, c'est un danger, il y a des risques de prison. Vous qui êtes engagé, que lui répondez-vous, notamment au niveau de la peur et des conséquences? Quand il faut s'engager, il y a aussi des répercussions derrière, il ne faut pas le négliger.
Ou des répercussions, je ne crois pas. Et je ne pense pas que la politique...
Quand vous entendez que des jeunes sont emprisonnés pour une cause qu'ils défendent, vous n'estimez pas que ce sont des répercussions derrière ?
Il faut relativiser les choses. Il a appelé du Togo, et je ne crois pas que, en matière de démocratie, le Togo soit un exemple. Et justement, quand j'entends ça, je suis un peu désolé. Je suis vraiment déçu d'entendre un jeune parler comme ça. Je suis désolé pour lui parce que Faure Gnassingbé est quand même pendant longtemps au pouvoir. C'est un dictateur, il a toujours triché les élections pour se maintenir. Et ce qui fait justement...
Alors, on n'est pas là pour polémiquer sur le parti. Je ne suis pas là aussi pour faire de la politique. Je vous demande juste simplement une question simple. Est-ce que vous parlez de ces répercussions politiques faire de la politique?
Je vais en venir.
Allez-y,
je suis convaincu que ce qui fait la force de la dictature, c'est la peur, justement, qu'elle arrive à infliger aux autres et surtout aux jeunes. Et il n'y a pas de repères. répercussions que je ressens aujourd'hui au niveau du Mali, au niveau de ma formation politique.
Mais en tant que jeune engagé en politique.
En tant que jeune engagé, je n'ai pas de, il y a absolument aucune pression qui s'exerce sur moi et je ne ressens pas cette répercussion-là.
Omar, vous, que pensez-vous du témoignage de Silver?
Je le regrette, hein, parce que je pense que quand on veut véritablement changer les choses, il faut s'intéresser à la vie de la cité, pour reprendre Stéphane.
Les termes de Stéphane.
C'est fondamental. C'est-à-dire que le risque que l'on prend en venant au monde, c'est de mourir. C'est radical ce que je dis, mais on prend des risques tous les jours. Même en se levant le matin, en allant dans sa salle de bain, on prend un risque. Donc vouloir changer un pays, vouloir influer sur la marche d'un pays et peser sur les politiques publiques ne se fait pas sans peine. Je dirais que c'est difficile. Mais dire que la politique est en danger, en tout cas, on se met un peu en danger, on prend des risques, évidemment. C'est ça que je peux accepter.
Il y a aussi des représailles, des coups qu'on prend en politique.
Voilà, mais considérer que la politique est en danger, eh bien, je ne m'engage pas parce que c'est en danger, on ne fera rien.
Faut pas avoir peur, finalement, et essayer de braver les difficultés. Stéphane ?
Moi, je suis assez attristé par ce témoignage. C'est vrai qu'entendre quelqu'un qui est jeune, qui dit qu'il a peur de s'engager parce qu'il a peur de finir en prison, c'est vrai que ça attriste et j'espère que c'est pas la situation du pays qui est comme ça, mais c'est vrai qu'on a envie de dire à tous les jeunes, allez-y à fond, faut croire en ses rêves, et je rejoins ce que disait Omar, faut s'engager. Après, évidemment, s'engager, c'est prendre un risque. Il est évident que quand vous arrivez dans un restaurant ou dans une salle et que vous dites vous êtes de telle ou telle couleur politique, ben les gens, ils vous jugent, mais ils vont dire, ah, mais comment tu peux oser soutenir
mais
un tel
ou
tel.
Mais on peut quand même comprendre Silver qui a vu son ami emprisonné avoir peur.
Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Moi, je trouve ça, assez triste. Qu'il ait peur. Je trouve ça triste qu'aujourd'hui, quand on a envie de s'engager pour son pays, comme disait Omar, parce qu'on a envie de changer les choses dans son pays, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, autre, mais que parce qu'on a envie de s'engager pour son pays, on finisse en prison, ben, je trouve ça dommage. Mmh. Et c'est vrai qu'en termes de leçon de démocratie, c'est triste.
Silver, est-ce que vous avez entendu les réponses que nos invités ont apportées?
Tout à fait, j'entends leurs arguments et c'est vrai qu'ils ont tout à fait raison, je partage leur point de vue. Donc c'est vrai que on a bien envie de Diarra et donc je pense à les entendre, il faudrait braver cette peur-là et essayer de changer les choses.
En tout cas, bon courage et merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Silver. Alors, je vais vous lire un commentaire Facebook, les garçons, d'Abdoulaye Diagne, qui a répondu à une question qu'on avait posée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut s'engager en politique, oui ou non? Et lui, il nous répond, alors non, les jeunes ne doivent pas faire de la politique car il existe des préoccupations bien plus importantes. Même point de vue du côté d'Abdoul Razak Mahamadou Maïga, la jeunesse est le moteur d'un pays, elle doit s'intéresser aux études, au travail, pour pousser le pays à aller de l'avant. Les politiciens ne travaillent pas, c'est juste du business. Alors, qui veut répondre? Je vous ai vu tous réagir. Omar, on va commencer par Omar, après Stéphane et Mahamadou.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ils disent que les politiciens ne travaillent pas. Déjà, moi, je récuse le terme politicien. Pour moi, la politique, c'est pas un métier. Considérer que c'est un métier, c'est dire qu'on a une carrière à défendre et tout. Et dire que les jeunes ne doivent pas s'engager, c'est les exclure des décisions publiques et d'exclure de tout ce qui fait fonctionner le pays. Alors que, en fait, la politique est une chose particulièrement noble. Parce que tout est politique, finalement. Même, je disais tout à l'heure à Mahamadou, que même la façon de fermer son bouton de manchette est politique. Parce que c'est une décision, on comprend. Il faut faire des choix dans la vie. Quand on se dit être citoyen d'un pays, il faut s'intéresser à la marche du pays. Et il se trouve que c'est dans la politique que se prennent les décisions. Donc si vous estimez...
Prendre des décisions, il faut être au cœur du pouvoir. Et le cœur du pouvoir est parfois tenu par ses députés, par ses maires, par ses présidents.
Oui, mais vous pouvez peser sur ces décisions. Parce que ce que dit Abdoulaye Diagne, c'est qu'il ne faut pas du tout flirter avec, entre guillemets, avec les politiques, avec la politique. Il faut s'en désintéresser. Alors que même le fait de se désintéresser de la politique est un acte fondamentalement politique. Mm-hmm. Parce que c'est donner la possibilité aux autres de décider à notre place.
Stéphane ?
Je rejoins ce que disait Omar. Moi, je peux pas comprendre quelqu'un qui dise aux gens, les amis, ne vous engagez pas et désintéressez-vous d'habiter la cité. Parce qu'à partir du moment où vous vivez quelque part et que vous aimez votre pays, vous avez envie de voir les choses aller dans votre sens.
Oui, mais quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de changements, que les choses finalement sont statiques, je suis désolée de faire l'avocate du diable, mais
vous
là,
avez
je peux comprendre les jeunes qui ne veulent pas s'intéresser parce qu'ils sont fatigués de voir les politiques enchaîner les réformes et ça prend du temps, faire des promesses qui ne sont pas tenues, alors il faut essayer de se mettre à la place des gens qui sont à l'extérieur et qui ne veulent pas s'engager.
Moi, j'ai deux contre-exemples. C'est vrai que ça prend du temps. Mais enfin, permettez-moi de vous dire que tout prend du temps. Demain, vous voulez devenir docteur, il faut faire bac plus 9. Hein. Et les réformes qu'on met en place, elles sont votées à l'Assemblée nationale. Mais il faut arrêter aussi qu'on pense que le politicien, entre guillemets, ou celui qui est engagé en politique, pour rejoindre ce que disait Omar, n'est pas un magicien. C'est pas parce qu'on a voté la réforme le lundi qu'elle va être appliquée le mardi. Il faut aussi laisser... Et là, on en parlait tout à l'heure des études. La formation est importante. Quand on est diplômé d'économie, on sait comment on fait pour obtenir la croissance. Ça ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il faut laisser le temps aussi pour construire les choses.
Mais aujourd'hui, le monde va vite, Stéphane.
Et pardon, je peux juste vous dire quelque chose. Si on continue ce discours-là, si on se revient il y a quelques années, allez, prenons un exemple. 10 ans plus tôt, beaucoup disaient il n'y aura jamais eu de noir président aux États-Unis. Vous voyez, ça fait 50 ans
que je suis obligé de vous poser la question, comme vous êtes noir et vous êtes en France engagé.
Mais vous voyez que ça a été possible.
Est-ce que vous envisagez, vous, de vous présenter un jour?
Pour l'instant, j'ai pas dans mes
donc
ambitions.
C'est oui, ça se sent. Ça c'était une réponse d'un politicien pur et dur, je vous assure. Prenez note, Stéphane Tiki à la présidentielle. Alors, je ne sais pas de quelle année, mais ça sera votre mot de la fin, Stéphane Tiki. Alors, Mahamadou, on arrive déjà à la fin de ce plateau. Quel message vous souhaitez laisser vous à ces jeunes qui s'engagent en politique?
Moi, je leur dis tout simplement de ne pas aller dans la précipitation. Parce que très souvent, ce qu'on voit dans le milieu politique quand on est engagé, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent et qui veulent gravir des échelons très vite. Ça peut être un handicap pour ceux qui veulent faire la carrière et une carrière politique. Il faut accepter également de se former. Et dans le contexte africain, la question de la formation, c'est un véritable problème à l'intérieur des partis politiques, parce que en réalité, il n'y a pas de programme de formation pour les jeunes. Et du coup, la meilleure façon pour ces jeunes-là de se former, c'est de s'engager, et de s'engager à la base, essayer de gravir tous les échelons du côté des anciens, et gagner de l'expérience. Et ça reste pour l'instant la seule formation pour les jeunes. Et c'est le message que je peux passer aux jeunes.
C'est vrai que vous avez parlé des aînés, on n'en a pas parlé une seule seconde dans cette émission, mais ils sont au pouvoir, alors oui. Peut-être qu'on devrait eux aussi leur laisser un message, Omar.
Oui, bien sûr. Bon, moi, le message que je vais le donner aux jeunes, hein, parce que les aînés, finalement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais...
C'est un autre débat.
Ce que je dis aux jeunes, c'est trouvez-vous un métier avant de vous engager en politique. C'est fondamental. Parce que ça évite les positions carriéristes, ça évite de faire tout et n'importe quoi pour réussir. Parce que je rejoins Stéphane qui disait qu'il a un métier, à Mahamadou aussi, moi j'ai un métier. Si demain je dois m'engager en politique, j'aurai déjà un métier. Et si je ne fais plus de la politique, je vais refaire mon métier. C'est très important parce que je pense que l'engagement politique a une durée. Il a un début et une fin. Et que on ne peut pas être efficace si on veut se faire une carrière politique, si on veut s'éterniser au pouvoir. Parce que les solutions, finalement, marchent en temps et ne fonctionnent pas tout le temps. Et donc, formez-vous, chers jeunes Africains, chers jeunes du monde, formez-vous avant de vous lancer en politique.
Vous avez entendu, le message est lancé. En tout cas, merci infiniment à vous trois. Merci à vous, Mahamadou Samaki, vous êtes secrétaire général adjoint de l'URD en France. C'est un parti politique malien d'opposition, je le rappelle. Stéphane Tiki, secrétaire national des Républicains, un parti politique français. Et enfin, Omar Ba, qui lui est analyste politique.
Alors, on dit quoi ? Diaran Djaï.
Vous rêvez de devenir une star dans votre sport de prédilection? Eh bien, semaine prochaine, Alors on dit quoi vous parlera justement du métier de sportif de haut niveau, leur quotidien, leur rémunération, leur formation et bien d'autres choses. Alors contactez-nous dès à présent et si vous souhaitez participer à l'émission, eh bien n'hésitez pas à nous appeler sur notre numéro WhatsApp au 33 647 740 742. Place à notre première pause musicale avec Steady, Wait For It.
Does it love me not? Moving on so fast, I wound up using up all my cash to find out it doesn't work like that. Live fast, die young, and how I'ma go. Took me a long time to get it right, never quite satisfied if I ain't got you. I got everybody that I need.
I tried many times, but he no walker. Boys for my hoods in a soft walker. I trust in myself and I pump also. See as I fall flat, I did pray for your grace now to hold me. On the bad side, they move now, you showed me. Bad man come, but no feet to hold me. Yeah, then no feet to hold me. Every time, not 9 out of 10, I mean every time. I gotta trust your ways, I won't fall in line. That is all your will and it's never mine. Don't let nobody detect what the pace of your life should be. And if they ask you to hurry, you tell them this how it should be.
No, better wait for it. Nobody rushes at a pace for me. I was so young and so wasteful. Couldn't tell me I had to wait for it. Oh no, 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 wait for it. Nobody rushes at a pace for me. Oh no, oh no, 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 no. Me better wait for it.
C'était Steady, Wait for It.
Alors on dit quoi?
Parlons à présent de démocratie participative. Le web activisme africain ne se limite pas à la surveillance des bureaux de vote lors d'élections. Avec le développement des réseaux internet et mobiles, les formes de militantisme citoyen mettant à profit les technologies numériques pullulent. Eh bien, illustration avec la plateforme Sénégal Vote. Pour en parler, nous accueillons l'un des membres fondateurs, Alexandre Guberlet. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Les plateformes d'engagement citoyen séduisent de plus en plus les jeunes. Ces nouveaux instruments du débat démocratique sont aussi tendance en Afrique, notamment au Sénégal, à travers Sénégal Vote. Alors, pouvez-vous nous expliquer l'objectif de cette plateforme ?
Alors, la plateforme Sénégal Vote est une initiative citoyenne lancée par une association qui s'appelle Wabedemi. La plateforme a été lancée en octobre 2018 et l'objectif principal était de contribuer de façon significative à une participation massive et de qualité aux élections présidentielles de février 2019.
Et comment fonctionne Sénégal Vote?
La plateforme fonctionne comme étant une passerelle d'informations électorales pour les citoyens internautes sénégalais.
Qu'avez-vous fait durant la campagne présidentielle de février 2019 concrètement?
Durant la campagne électorale, nous avons essentiellement travaillé autour de la plateforme et de ses fonctionnalités. Et parmi ces fonctionnalités, il y avait la carte électorale, une fonctionnalité qui permet à l'internaute de pouvoir voir exactement où se trouve et son centre de vote. Il y avait le guide de l'électeur avec un contenu assez simplifié et très ludique à l'intention du citoyen sénégalais. Peut-être l'une des dernières fonctionnalités qui a été très bien utilisée par les internautes sénégalais était le comparateur de programmes. C'est une fonctionnalité qui permet de rentrer dans le comparateur, de choisir plusieurs candidats et de comparer leurs offres programmatiques sur 11 thématiques. Des débats ensuite ont été créés sur les réseaux sociaux. L'idée derrière, c'était de centraliser tout ce qui est débat autour d'offres programmatiques et non des débats autour des personnes, voire des religions ou encore des ethnies. C'était une façon pour nous de donner une substance même à notre approche à travers ce projet Sénégal Vote.
Alors, les élections ont eu lieu en février dernier. Que fait aujourd'hui la plateforme? Est-ce que vous préparez les scrutins locaux?
Après, c'est vrai que les élections présidentielles sont complètement derrière nous. La plateforme est toujours fonctionnelle avec une bonne partie de ses fonctionnalités. Et aujourd'hui, nous, on se dit que la tâche n'est pas terminée. Parce que jusque-là, les projets Civic Tech, nous avions l'habitude de les développer, mais c'était des projets qui répondaient à des événements. Et après, il n'y avait pas une documentation nécessaire pour voir comment on pourrait l'améliorer. Donc, juste après les élections, nous avons pris quelques mois à travailler une documentation assez sérieuse sur le processus électoral, sur les failles de notre projet. Il y a des recommandations, il y a des perspectives. C'était aussi une façon pour nous de préparer la recette même du projet Sénégal Vote, comment nous nous y sommes pris, jusqu'à ce que ça puisse marcher et qu'il y ait une appropriation par les internautes sénégalais.
La Civic Tech, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Qu'apporte-t-elle au débat démocratique dans un pays comme le Sénégal?
Là, nous travaillons à fond dans la phase 2 du projet, qui est la phase de consolidation, parce que nous sommes conscients que la démocratie, c'est pas un rendez-vous. On peut pas uniquement customiser une plateforme web pour un rendez-vous électoral. le challenge pour nous actuellement, et nous sommes vraiment en train d'y travailler, c'est de rendre tout ça pérenne en mettant en place un outil qui va véritablement faciliter la compréhension du processus électoral, voire bâtir d'autres passerelles de dialogue entre citoyens et élus. Parce que nous sommes convaincus que c'est ça la substance même de la démocratie.
Et d'après vous, Alexandre, comment les outils développés par la Civic Tech doivent-ils être accompagnés pour véritablement garantir un débat démocratique de qualité, ouvert à tous et surtout permettant une revitalisation de la démocratie sous différentes formes?
Aujourd'hui, il y a une masse critique de jeunes Africains qui sont connectés sur Internet, qu'on peut facilement retrouver sur les réseaux sociaux. En développant des initiatives Civic Tech, c'est une façon pour nous de les réconcilier avec la politique. Cependant, il faut un peu relativiser. Les technologies ne vont pas tout régler. Ce qui peut tout régler, c'est véritablement que les jeunes aient une conscience politique, qu'ils s'investissent et qu'ils aient un esprit communautaire. Nous, c'est tout ce qu'on essaye de mettre en avant lorsque nous nous lançons dans les Paris Initiatives.
Merci beaucoup Alexandre Guberlet. Je rappelle donc que vous êtes l'un des membres fondateurs de la plateforme Sénégal Vote.
Alors, on dit quoi ?
Et cette semaine, Vanessa nous a laissé un message pour nous encourager et surtout nous rappeler qu'il ne faut jamais baisser les bras. On l'écoute.
Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Vanessa Nguema, journaliste et manager en stratégie digitale. Je voudrais dire un message, passer un message à la jeunesse africaine. Soyez déterminés et n'abandonnez jamais face aux obstacles, car la victoire arrive toujours au bout de l'effort. Un échec ne peut pas déterminer la fin d'un combat ou d'un parcours. Je vais vous parler un peu de moi. J'ai grandi dans une famille où les études n'étaient pas importantes. Les parents voulaient qu'à un âge donné, que je puisse me marier et fonder une famille. Mais je tenais à faire mes études. Aujourd'hui, toute ma famille est fière de moi et fière de mon parcours. Tout ceci pour dire que dans la vie, quand vous avez une vision, tenez-vous à cette vision jusqu'au bout. Malgré les obstacles et les difficultés, continuez à suivre votre trajectoire.
Et si vous aussi, vous avez un message à adresser à la jeunesse, eh bien contactez-nous, n'hésitez pas. Nous avons un numéro WhatsApp. Vous avez aussi la possibilité de nous contacter via Facebook, Insta ou Twitter.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
On écoute José, auteur, compositrice, interprète ivoirienne, figure de la chanson africaine. Et son titre cette semaine que j'ai choisi, c'est Moumou.
Tous les oiseaux mangent du mil. Mais celui qu'on a déjà sur le mil, on appelle et mange mille. On vit dans un monde où des pêcheurs jugent d'autres pêcheurs pour avoir pêché différemment. Aoulé oublie là un peu, c'est Dieu seul qui peut la juger. Maman, mon nom est devenu qui on dans la bouche des gens. Maman, mon nom est devenu pour là-bas. X pour se passer les dents. Y pour manger le jungle. Et c'est mon nom. De ceux qui te regardent.
Fini les magiciens.
écoutez José, mon nom.
Alors on dit quoi? Jaranjay.
Alors on dit quoi? Met fin aux infox, vous savez, ce sont ces fausses informations relayées massivement sur Internet, mais qui ne sont pas vraies ou partiellement vraies. Eh bien, nous vous apportons des précisions avec Valdez, qui est journaliste à Africa Tchèque. Bonjour Valdez.
Bonjour Diara.
Valdez, la suppression du franc CFA par la Guinée équatoriale est un canular, nous dites-vous ce matin.
Oui, et le fait d'en parler peut surprendre certains de nos auditeurs, tant il est évident qu'une telle information, si elle était avérée, ferait le tour des grands médias. Mais au Sénégal, et pas que, cette rumeur a été relayée par plusieurs sites d'information et elle a donc largement tourné sur les réseaux sociaux.
Valdez, l'autre raison pour laquelle vous en parlez, me disiez-vous, c'est aussi parce que ce n'est pas la première fois que cette rumeur circule dans des médias et sur les réseaux sociaux.
Tout à fait, Diara. Le canular avait déjà surgi en septembre 2018 et plus récemment encore en avril 2019. Et d'ailleurs, quand nous avons contacté l'ambassade de la Guinée équatoriale à Dakar, elle nous a d'abord indiqué n'avoir reçu aucune notification officielle allant dans le sens d'une prochaine suppression du franc CFA en Guinée équatoriale, avant d'ajouter qu'il s'agit d'une fausse information qui apparaît chaque année. Même son de cloche au niveau de l'ambassade de la Guinée équatoriale en France, qui a parlé de fake news déjà démenties qui circulent depuis plusieurs mois et qui est relancée à intervalles réguliers sur le net. Voilà donc en substance la réponse que nous a livrée l'ambassade de la Guinée équatoriale en France.
Une fois encore, non, la Guinée équatoriale n'a pas annoncé la suppression du franc CFA.
Oui, Diara, et c'est ce que doivent retenir les auditeurs qui ont eu le malheur, on va dire, de croire en cette rumeur.
Merci Valdez.
Merci Diara.
Et c'est la fin de cette émission. Alors on dit quoi revient semaine prochaine. D'ici là, restez connectés. On peut toujours communiquer via les réseaux sociaux. Vous connaissez notre page Facebook. Alors on dit quoi? Notre Twitter et notre Insta. Vous n'avez plus qu'à envoyer vos commentaires, recommandations et suggestions. La semaine prochaine, Alors on dit quoi vous parlera du métier de sportif de haut niveau, quotidien, rémunération, formation. Vous saurez tout. Et n'oubliez pas aussi de nous laisser un message sur le répondeur de notre émission au 33 647 740 742. Merci à toutes l'équipe de l'émission, Daba, Awa, Beverly, Mariam et Guillaume. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence. Bon week-end, Ubnolucha, Gongol, à bientôt.